Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de 3600 secondes d'histoire à Chiz. C'est le 14 juillet ce soir. Alors, l'équipe vous a préparé une émission qui n'a malheureusement rien à voir avec la prise de la Bastille, mais on salue quand même notre auditoire français. Aujourd'hui, plutôt, on va vous parler donc des débuts de l'hôpital Saint-Sacrement. En tant que tout nouveau habitant de Saint-Sacrement, je suis très excité de recevoir donc Alex, que vous connaissez bien, un habitué de l'émission désormais, qui va nous parler de Saint-Sacrement, de l'hôpital. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intrigue, mais pourquoi l'hôpital Saint-Sacrement, Alex? Pourquoi ce nouveau sujet?
Bonsoir, Alexandre. Très heureux d'être de l'émission en tant qu'invité, plutôt qu'en tant qu'animateur ce soir. Mon intérêt pour l'hôpital Saint-Sacrement m'est venu d'une série de mandats que j'ai eus pour le CHU de Québec pour faire son histoire. Et parallèlement aussi, en tant qu'historien de la ville de Québec, en tant qu'historien des élites de la ville de Québec, mais je m'intéressais au corps médical qui, fait en grande partie des élites et, le fait aussi de manière de plus en plus prégnante, là, particulièrement au 21e siècle où, les médecins sont de plus en plus, occupe une place de plus en plus importante au sein, de la pyramide sociale. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à l'hôpital Saint-Sacrement. Moi aussi, j'habitais dans Saint-Sacrement à l'époque. Là, maintenant, j'ai déménagé à trois rues de Saint-Sacrement, mais mon cœur demeure toujours dans le quartier.
Super. Puis, tout de même, même si on touche aux élites, reste que pour faire l'histoire d'un hôpital comme ça, ça doit être des sources très différentes que ce avec quoi t'es habilité à travailler.
Effectivement, c'est des sources qui sont différentes de celles sur lesquelles je travaille habituellement, mais c'est des sources qui sont pas si différentes que ça. Notamment, on travaille avec les journaux. Depuis que, on est capable de faire de la recherche par mots-clés, ça fait qu'on est capable de trouver de l'information sur des choses quand même assez précises, alors qu'avant, un dépouillement systématique de la presse pour trouver de l'information sur cet hôpital-là aurait été impensable ou, très laborieux. Les archives de l'hôpital qui sont aux Sœurs de la Charité sont également riches en informations. Et pour la période plus récente qu'on va aborder plus succinctement aujourd'hui, mais qu'on va quand même aborder un petit peu, il y a quand même la mémoire, parce que c'est un hôpital qui va avoir 100 ans en 2027. Donc, on a encore des enfants ou des petits-enfants, des fondateurs ou des médecins, des infirmières qui ont été à l'œuvre dans les années 40, 50, 60. Et donc, il y a moyen de puiser beaucoup dans la mémoire collective, dans les archives de l'institution ainsi que dans les journaux.
Merveilleux. C'est un épisode qui s'annonce très intéressant et on va commencer tout de suite après une première pause musicale. Donc, on vous laisse avec Dr. Robert des Beatles. Thank you.
épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3 FM. Oh!
Alors, re-bienvenue à notre épisode de 3100 secondes d'histoire sur l'hôpital Saint-Sacrement avec notre invité Alex Tremblay-Lamarche. On va débuter ça tout de suite avec les débuts de l'hôpital Saint-Sacrement qui, comme tu l'as dit avant la pause, va fêter son centenaire l'année prochaine.
En 2027.
En 2027, voilà. Pardon. Mais tout de même, c'est pas l'hôpital le plus ancien de la ville de Québec, loin de là.
Effectivement, le premier hôpital est fondé en 1639. Bon, c'est l'Hôtel-Dieu de Québec qui est bien connu, qui est fondé à l'époque de la Nouvelle-France. Et bon, par la suite, on va avoir d'autres hôpitaux qui vont être fondés tout au long du 19e siècle. On pense notamment à l'hôpital des immigrants, l'hôpital de la Marine, le Jeffrey Hill aussi pour la communauté protestante. Tout plein de petits hôpitaux, d'hôpitaux de moyenne taille. Et on a également aussi plusieurs hôpitaux privés qui vont être fondés aujourd'hui. Bon, ça peut sembler un petit peu étrange à ceux qui nous écoutent parce que, bon, on est habitué d'avoir un système de santé public, mais à l'époque, c'est loin d'être le cas. Et donc, on a des communautés religieuses qui, bon, s'occupent du système de santé, mais on a également des médecins qui, bon, le font au privé, si je peux m'exprimer ici, avec des petits établissements, des fois de 10, 15, 20, 30 lits. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Mais au début du 20e siècle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment, bon, une expansion du milieu de la santé à Québec. Et il y a plusieurs établissements de santé qui vont être fondés, qui existent toujours aujourd'hui. Les gros hôpitaux de la ville, c'est à cette époque-là qu'ils sont fondés, si on fait fi de l'hôpital Saint-Sacrement. Saint-François d'Assise en 1914, l'hôpital Laval en 1918 et l'hôpital de l'Enfant-Jésus en 1923, puis bon, Saint-Sacrement, comme je mentionnais, en 1927. Donc, on voit là, qu'il y a quelque chose qui se passe à cette époque-là qui, bon, répond à une expansion de la population. Il y a un boom démographique à Québec, donc il y a aussi un besoin grandissant en termes de soins de santé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bien, la ville prend de l'expansion. Avec le quartier Limoilou, justement, qui se développe, avec l'ouest de Québec dans le quartier Saint-Sacrement qui se développe. Il y a également des nouvelles maladies, ou du moins des maladies qu'on souhaite traiter autrement, comme la tuberculose, qui, bon, aujourd'hui, pratiquement disparue, mais qui, à l'époque, bon, ben, on ne sait pas trop comment la traiter. On veut isoler les patients et donc on a fondé l'hôpital Laval pour traiter la tuberculose. L'hôpital de l'Enfant-Jésus, bon, c'est un hôpital qui est fondé dans une perspective de développer des connaissances en pédiatrie. D'où le nom, en fait, d'Enfant Jésus. Donc, cette expansion-là au début du 20e siècle correspond à une augmentation de la population, des meilleures connaissances en médecine et, bon, ben, une volonté de spécialiser le système de la santé. C'est dans ce contexte-là qu'est créé l'hôpital du Saint-Sacrement.
C'est pour ça qu'on voit autant d'hôpitaux fondés à si peu de temps d'intervalle.
Exact.
C'est surtout des fonctions distinctes. Et à ce moment-là, l'hôpital Saint-Sacrement doit avoir une fonction précise, en fait, doit avoir un objectif. Pourquoi, donc, la fondation de cet hôpital-là en 27?
Eh bien, la raison pour laquelle on fonde l'hôpital Saint-Sacrement, c'est comme je le mentionnais un petit peu, bon, l'expansion de la ville vers l'ouest, l'augmentation de la population. On voit que la paroisse Saint-Sacrement, qui, si je ne m'abuse, fêtait son 100e anniversaire cette année, donc qui aurait été créée vers 1921 à peu près, a besoin, justement, bon, d'institutions de santé. L'hôpital, l'hôtel Dieu est un peu loin. Et donc, ce qu'on va voir, c'est le père Auguste Pelletier, qui est le curé de Saint-Sacrement, et le docteur Arthur Rousseau, qui vont se mettre ensemble pour créer cet hôpital-là. Et bon, ben, d'une part, effectivement, il y a une volonté de donner un hôpital à la paroisse. Et du côté du docteur Arthur Rousseau, ben, il y a une volonté qui est différente. Le docteur Arthur Rousseau, c'est le doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et bon, ben, il veut vraiment avoir un hôpital universitaire, si je peux m'exprimer ici. Ça peut sembler un peu étrange pour nos auditeurs qui connaissent bien l'histoire de l'Université Laval parce que jusque dans les années 1950, le campus de l'Université Laval est dans le Vieux-Québec, juste à côté de l'Hôtel-Dieu. Et bon, ben, pourquoi justement fonder un hôpital qui est à peut-être 4 kilomètres du campus universitaire, alors qu'on a un hôpital qui est à quelques dizaines ou quelques, même pas une centaine de mètres? Eh bien, c'est parce que ce sont les Augustines qui choisissent les médecins à l'Hôtel-Dieu de Québec, et ce sont elles qui acceptent dans leur mur qui, bon, a le droit de pratiquer. Ce sont également elles qui décident comment l'établissement est administré, et bon, les médecins jugent que, bon, ça serait mieux fait si c'était eux qui pouvaient administrer l'hôpital. Ils veulent avoir les deux mains sur le volant, pour reprendre, bon, une expression maintenant bien connue. Et donc, ce désir-là de fonder un nouvel hôpital du côté de la faculté de médecine de l'Université Laval, tout en ayant justement ce désir-là de répondre à l'expansion de la population, à cette paroisse naissante-là. Et donc, le père Auguste Pelletier et le docteur Arthur Rousseau vont se mettre ensemble pour créer cet hôpital de pair avec, bon, quelques notables locaux.
Mais tout de même, par la participation d'Auguste Pelletier et probablement d'autres membres du clergé, c'est donc pas une opération qui est faite uniquement par les médecins dans une volonté de s'extraire de la tutelle un peu de l'Église.
Effectivement, il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ces gens-là qui sont dedans. Également des notables qui, bon, souhaitent participer aux bonnes œuvres. On se rappelle que, bon, à l'époque, le taux d'imposition est beaucoup moins important qu'il l'est aujourd'hui, que, bon, tout ce qui est le système de santé, le système de services sociaux repose en grande partie sur la charité de l'Église, sur les dons. Et donc, il y a toute cette mentalité-là, justement, chrétienne qui est derrière. Et, bon, ben, ce qu'on voit aussi, c'est que le père Auguste Pelletier et le docteur Arthur Rousseau vont se tourner vers les Augustines parce que, bon, ben, même s'ils veulent avoir, bon, le plein contrôle sur l'hôpital, mais ça prend une communauté religieuse pour être capable de, du moins, d'en assurer la gestion, même si, bon, les décisions seraient prises par les médecins. Et donc, ils se tournent vers les Augustines qui, bon, dans un premier temps, acceptent de prendre justement cet hôpital-là. Mais à mesure que le projet avance, là, on est à la fin des années 10, début des années 20, les Augustines, justement, se rendent compte qu'elles vont devoir payer, elles vont devoir gérer, mais qu'elles n'auront aucun pouvoir. Et donc, finalement, bien, les Augustines décident justement de se retirer du projet. Et bon, ben en fait, le père Auguste Pelletier et le docteur Arthur Rousseau se retrouvent justement un petit peu mal pris parce que, bon, ben ils voulaient avoir le contrôle des lieux, mais ils voulaient quand même que les Augustines paient. Ce que les Augustines ont compris, qui est probablement la raison pour laquelle elles se sont retirées, d'ailleurs. Et donc, ben, ils se retrouvent dans de beaux draps dans ce contexte-là. Et bon, ben, il va falloir régler les choses.
Très bien. Et comment règle-t-on les choses?
Eh bien, le cardinal de Québec, Louis-Nazaire Béchin, va adresser une lettre pastorale à ce sujet à tout le diocèse le 17 juin 1925. Il va vouloir justement constituer des comités locaux pour amasser des fonds pour l'achèvement de l'hôpital, mais il va malheureusement mourir entre-temps et ça va être son successeur, Mgr Paul-Eugène Roy, qui va reprendre le flambeau, toujours dans une lettre pastorale le 10 octobre suivant. Bon, malheureusement, il semble que se mobiliser pour l'hôpital Saint-Sacrement, qu'on est un évêque, ça soit de mauvais augure, parce que Mgr Paul-Eugène Roy meurt aussi rapidement. Mais toujours est-il justement qu'il y a plusieurs notables qui vont réussir à ramasser des fonds et surtout, on va être capable de trouver une autre communauté religieuse.
Peut-être que quelqu'un ne voulait vraiment pas voir l'hôpital achevé. Et donc, donc, 2 ans après, donc en 27, l'hôpital ouvre ses portes et quel accueil, disons, les gens de la ville réservent à cet hôpital-là? Ça doit être assez enthousiaste.
Oui, l'accueil des gens est assez enthousiaste. Le 13 décembre 1927, l'hôpital reçoit sa première patiente. Et donc, il y a déjà une demande quand même assez forte au début. 219 malades après à peine 2 mois, si je ne m'abuse, ont été admis dans l'établissement. Et bon, ça, c'est rendu possible parce que si les Augustines se sont retirées, ben, les Sœurs de la Charité, entre-temps, sont venues à la rescousse. Et elles ont accepté de prendre l'hôpital. Elles payent, elles gèrent, mais les médecins décident. Et donc, elles acceptent de prendre l'hôpital. Bon, mes recherches m'ont amené justement à émettre une hypothèse. Pourquoi est-ce que les Sœurs de la Charité acceptent de prendre l'hôpital et de le sauver? Ben, adjoint, si je peux m'exprimer ainsi, du docteur Arthur Rousseau, le docteur Calixte Dagneau, a deux sœurs qui, bon, sont dans les sœurs de la charité, Malvina, dite sœur Saint-Calixte, et Marie-Anne Joséphine, dite sœur Sainte-Marthe. La première, Malvina, sœur Saint-Calixte, avait participé à l'ouverture de la clinique Roy-Rousseau à l'hôpital Saint-Michel-Archange en 1926. Elle en était directrice générale. Donc, il y avait des liens entre le docteur Rousseau, la sœur Saint-Calixte des Sœurs de la Charité, le docteur Dagneau. Et donc, probablement que c'est ce qui explique le fait que, les Sœurs de la Charité ont accepté de venir à la rescousse et d'ouvrir cet hôpital en 1927.
Ça peut étonner tout de même que ce soit une religieuse à l'époque qui occupe des postes de direction et tout ça. On est tellement habitué à ce que ce soit des laïcs aujourd'hui qui se chargent de ces postes-là.
Effectivement, on a tendance à voir la Révolution tranquille comme quelque chose d'un progrès triomphant, la société justement se libéralise, etc. Mais elle a aussi un côté sombre, la Révolution tranquille, parce qu'elle va enlever plusieurs femmes de des postes de pouvoir pour justement les remplacer par des gestionnaires laïcs. Par exemple, les femmes, via les communautés religieuses, elles étaient pharmaciennes, apothicaires, comme on disait à l'époque, elles étaient gestionnaires d'hôpital, elles étaient justement directrices d'école d'infirmières. Elles étaient, directrices d'école, tout simplement, avec les couvents. Et, avec la Révolution tranquille, on les tasse et on met des hommes laïcs. C'est ce qui va arriver à l'hôpital Saint-Sacrement dans les années 1960, si je ne m'abuse, ou à peu près vers ces années-là. On va mettre Paul Plot à la place des Sœurs de la Charité, puisque, les Sœurs de la Charité vont reprendre le contrôle de l'établissement, comme on le verra par la suite. Et donc, oui, les femmes, à l'époque, occupaient une place importante dans l'établissement, notamment via la communauté religieuse, mais aussi via les infirmières, via les épouses de médecins. Il faut voir en fait le système de santé de l'époque avec les lunettes de l'époque plutôt qu'avec les lunettes d'aujourd'hui.
Parfait. Et ce qui nous amène à nous demander de quoi avait l'air cet hôpital universitaire, mais qui se partage avec le clergé, qui est à deux pas d'un autre hôpital et qui, va aussi, si ma mémoire est bonne, mais avoir beaucoup de traitements, justement, d'avant-garde ou de nouveaux instruments.
Tout à fait. Dès les débuts, le docteur Arthur Rousseau désire inscrire l'hôpital dans ce qu'il y a de plus moderne. Et lui, il y a tout un réseau de médecins avec lequel il est en contact en France et il désire inscrire l'hôpital Saint-Sacrement dans la tradition française. Et donc, il va notamment équiper l'hôpital avec des instruments médicaux qui viennent de France. Il va notamment commander à Strasbourg des instruments pour la salle d'autopsie, à Paris, des instruments destinés aux dispensaires d'urologie ou des instruments, justement, d'ophtalmologie. À l'époque, ce à quoi ça ressemble, comme je le disais, le docteur Arthur Rousseau, lui, voulait avoir cet hôpital-là pour être capable de faire de l'enseignement universitaire. Donc, en matinée, l'hôpital est plein de médecins. L'hôpital, justement, est très, très actif. Mais en après-midi, l'hôpital se vide parce que, justement, les médecins se dirigent vers l'Université Laval où il enseigne. Et donc, ça, c'était le souhait du docteur Rousseau. Et quand il va se retirer et que ça va être le docteur Dagneau qui va prendre sa succession, ça va être exactement la même chose qui va se passer. Donc, on voit vraiment un hôpital universitaire sans pour autant avoir le statut d'hôpital universitaire, si je peux m'exprimer ainsi, avec justement toutes sortes de disciplines modernes, justement radiologie, physiothérapie, ophtalmologie, pédiatrie, bactériologie, chimie médicale et une école d'infirmières, puisque à l'époque, la formation en sciences infirmières n'est pas dispensée par les cégeps qui n'existent pas encore, ni par les universités. Mais à peu près chaque hôpital a son école d'infirmières, notamment, c'est le cas à l'Enfant Jésus qui a une école d'infirmières, c'est le cas à l'Hôtel Dieu qui a une école d'infirmières et à Saint-Sacrement qui va avoir son école d'infirmières aussi.
Et ça, c'est plutôt par curiosité personnelle, mais donc, le CHUL,
ouais.
On est combien de temps après cet hôpital-ci?
Le CHUL, justement, bon, c'est à la base l'hôpital des vétérans. C'est un hôpital qui est installé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale à Sainte-Foy pour accueillir les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, ben, dans les années, si je ne m'abuse, 60 à peu près, il va y avoir une volonté de doter l'Université Laval d'un vrai hôpital universitaire. Parce que, bon, ben, à ce moment-là, les hôpitaux, pas les hôpitaux, mais les médecins de l'Université Laval étaient dispersés un petit peu partout dans tous les hôpitaux de la ville, même si l'hôpital Saint-Sacrement était le seul hôpital à avoir un contrat en bonne et due forme avec la faculté de médecine. Et donc, c'était pas l'hôpital universitaire, mais c'était un peu l'hôpital qui jouait ce rôle sans l'être. Et donc, lorsqu'on va faire de l'hôpital du CHUL, en fait, l'hôpital des vétérans de Sainte-Foy, en face de Place Laurier, le véritable hôpital universitaire, eh bien, ça va porter un gros coup à l'hôpital Saint-Sacrement parce que, bon, ben, il y a beaucoup des médecins qui étaient professeurs à l'université, qui vont aller pratiquer au CHUL. Et ça va vraiment, bon, changer complètement la dynamique de ce côté-là. Donc, c'est vraiment un petit peu plus tard que ça va se faire et ça va, bon, se faire un petit peu au détriment de l'hôpital Saint-Sacrement. Mais pour l'heure, dans les années 30 et 40, tout va bien encore, même si sur le plan financier, ça accroche un peu.
Peux-tu nous en dire plus?
Ben justement, les médecins avaient leur beau grand projet, puis bon, voulaient gérer l'hôpital eux-mêmes, puis que bon, les religieuses fassent juste faire ce qu'ils demandent. Mais ces chers médecins qui se sont approvisionnés en Europe, notamment beaucoup en France, ont accumulé une dette de 1,5 million de dollars, ce qui est quand même considérable pour l'époque. Et donc, en 1936, l'hôpital est en banqueroute. Et les religieuses vont accepter d'effacer la dette, de payer pour la dette, mais à condition justement de reprendre le contrôle de l'hôpital. Ça a été bien beau justement ce trip des médecins, si on peut s'exprimer ainsi, mais dorénavant, bon, on va mettre une bonne sœur économe à la tête de la gestion qui va s'occuper des choses et qui va s'assurer justement que ça soit administré comme il faut. Et donc, ben, les médecins acceptent pour éviter la fermeture de l'hôpital. Et donc, le bureau de direction laïque qui avait été créé devient il est dissous. Et bon, ben, il va avoir une direction médicale des lieux qui va être assurée par les médecins, tandis que les sœurs vont assurer la gestion et l'administration des lieux.
Donc, il y a toute une réorganisation de l'hôpital qui, d'ailleurs, va être assez débordée dans les années qui vont suivre. Et ça, on va poursuivre après la pause en abordant le sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Mais auparavant, on va se laisser sur une pause musicale avec un succès de Aretha Franklin, Dr. Feelgood.
send me no doctor. Filling me up with all of those pills. I got me a man named Dr. Feelgood. Yeah, yeah, that man takes care of all of my pains and my ills. His name is Dr. Feelgood in the morning. Taking care of business is really this man's game. And after one visit to Dr. Feelgood, you understand what Feelgood is his name.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Chiz pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey les gars, j'ai assez hâte au jour de l'an là.
Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler.
N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer là.
Quand je pogne plus 3600 secondes d'histoire. Oh non!
Alors, re-bienvenue sur les ondes de 3100 secondes d'histoire à Chiz, où on a présentement un épisode sur l'hôpital Saint-Sacrement de Québec avec Alex Tremblay-Lamarche. Et chose promise, chose due, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à Québec, évidemment, on en parle beaucoup. On a les accords de Québec avec Churchill et Roosevelt. On a aussi Léo Major, donc ouais. Tous ces exploits. Mais on parle assez peu des hôpitaux canadiens qui, pourtant, ont joué un rôle important dans ce conflit-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Effectivement, c'est quelque chose que j'ai moi-même découvert en faisant l'histoire des lieux. Puisque, bon, ben, quand je pensais à la Deuxième Guerre mondiale, je pensais à la conscription, et à la résistance qu'il y a eu face à ça. Je pensais, bon, à la collecte de fonds, toutes ces choses-là. Mais j'ignorais que les hôpitaux canadiens avaient donné des médecins, des infirmières, du matériel médical, etc. Pour la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, l'hôpital Saint-Sacrement y a participé de façon particulièrement importante, au dire du docteur J. Édouard Morin, qui va devenir justement le directeur médical de l'Institut lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'hôpital aurait confié sans hésitation et en toute connaissance de cause, une partie si importante de son équipe professionnelle que proportionnellement, nulle autre institution n'aurait dépassé. Donc, c'est quand même assez considérable. On va s'en rendre compte, bon, dans les minutes à suivre, vraiment, infirmières, médecins, préposés, il y a énormément de gens qui vont soit traverser de l'autre côté de l'Atlantique, soit justement participer à l'effort de guerre depuis la ville de Québec, c'est ça, au sein du personnel de l'hôpital Saint-Sacrement.
Et peut-être un rôle fondamental, mais qui est nécessaire de souligner, c'est celui des infirmières de l'hôpital en particulier. Est-ce que tu peux nous parler de certaines d'entre elles?
Effectivement, il y a plusieurs infirmières, comme je mentionnais, qui vont partir pour l'autre côté de l'Atlantique, notamment bon, les lieutenants Rose Hamelin et Rose Alma Caron, qui œuvrent dans les salles d'opération des hôpitaux au cours de la guerre, mais aussi bon, la capitaine Jeannette Vachon, qui va occuper la fonction d'infirmière dans les services généraux du 14e hôpital en Angleterre de 1942 à 1943. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hôpitaux ne sont pas sur le front. Les hôpitaux sont toujours derrière le front. Donc, au début de la guerre, les hôpitaux canadiens sont en Angleterre principalement. Puis, bon, à mesure justement qu'on regagne le nord de l'Afrique, qu'on commence à gagner l'Italie, parce que, bon, l'armée canadienne va faire la campagne d'Italie, eh bien, on va aller installer un hôpital de guerre du côté de l'Afrique du Nord. Et, bon, ben, il y a certaines... infirmières de l'hôpital Saint-Sacrement, notamment la capitaine Atala Coulombe, qui vont se rendre en Afrique du Nord justement pour servir d'hôpital d'arrière-front, si je peux m'exprimer ainsi, de la campagne d'Italie, parce que bon, ben c'est pas très loin effectivement de la Sicile, c'est pas très loin du sud de l'Italie. Puis à mesure effectivement que bon, on regagne tranquillement la péninsule italienne, ben l'hôpital au sein duquel Atala Coulombe sert se déplace jusqu'en Italie. On a également justement des infirmières de l'hôpital Saint-Sacrement qui bon, vont être en France en juillet 1944 lors des jours sanglants de Caen, puis à Montreuil, en Bologne, lors de la bataille de Bologne. Et bon, ben, comme je le mentionnais, les hôpitaux au sein desquels les infirmières travaillent se déplacent. Donc, dans certains cas, on va avoir un hôpital qui va se ramasser à Anvers, en Belgique, et bon, ensuite aux Pays-Bas. Donc, les infirmières jouent vraiment un rôle considérable dans l'organisation des soins, dans la dans le fait de donner des soins. Certaines, justement, ont laissé des témoignages puis racontent que, bon, ben c'était assez tranquille, puis pouf, soudainement, ben l'hôpital est complètement bondé. Il y a des malades, et en fait, des blessés plutôt que des malades qui débarquent. Et bon, ben après coup, justement, ils se rendent compte qu'il vient d'avoir une bataille particulièrement sanglante et que, bon, ben on vient de rapatrier les blessés, justement, vers leur quartier. Et donc, c'est le rôle que jouent les infirmières de l'hôpital Saint-Sacrement lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Et elles ne sont pas les seules. Il y a aussi des médecins qui se rendent en Europe pour suivre les combats.
Effectivement, notamment les docteurs Jules Gosselin et Jean de Saint-Victor. Le premier va passer dans l'armée dans l'armée régulière au début des hostilités, après avoir servi dans l'armée de réserve pendant plusieurs années. Il va être promu major en 1940, puis il va partir pour l'Angleterre au cours de cette année et occuper un poste de premier radiologiste consultant de l'armée canadienne. Puis, ben, un peu comme les infirmières, hein, il va s'embarquer pour l'Italie à la fin d'octobre 1943, prendre part à l'invasion de celle-ci en tant justement que radiologiste. Et bon, ben Jean de Saint-Victor, lui, quant à lui, va être attaché au 17e hôpital militaire en Angleterre, où il va pratiquer la chirurgie pendant pratiquement l'ensemble du conflit. Donc, on voit vraiment que les médecins suivent un petit peu le même parcours. Soit ils restent derrière le front en Angleterre, ou soit effectivement, ils sont dans des hôpitaux de campagne qui sont montés, démontés et qui avancent au même rythme que les alliés regagnent tranquillement l'Europe. Et donc, il joue un rôle considérable de ce côté-là.
Mais là, comme tout ce beau monde-là est rendu en Europe, l'hôpital à Québec doit continuer de fonctionner, non? Les gens sont malades, les gens ont besoin de soins. Comment ça se passe à la maison?
Ben, de façon franche et honnête, ça va mal. le docteur, justement, Morin, va dire que y a une pénurie de personnel qui est tellement importante qu'elle a pour effet, je cite, de paralyser dans une certaine mesure les rouages de l'institution. Ben, c'est ça, les principaux médecins sont soit justement mobilisés en Europe ou au sein, justement, soit de l'hôpital militaire de Valcartier, l'hôpital militaire de l'Hospice Saint-Charles, l'hôpital militaire érigé sur les plaines d'Abraham. Même le directeur de l'institution, le docteur Renaud Lemieux, justement, ben, va être nommé justement à l'hôpital militaire et donc il va justement délaisser un petit peu l'institution. Et donc, on manque de bras à l'hôpital Saint-Sacrement tant justement ces bras-là sont soit partis de l'autre côté de l'Atlantique, soit dédiés justement à la cause militaire à Québec. Et donc, c'est un défi particulièrement important. Et bon, c'est notamment ce qui va amener éventuellement le docteur Morin à revenir pendant le conflit parce que, oui, c'est bien beau effectivement participer à l'effort de guerre, mais bon, l'hôpital Saint-Sacrement, est beaucoup trop précarisé par cette quantité, en fait, de médecins, d'infirmières et de soignants qui sont partis au front, soit le front canadien, si je peux m'exprimer ainsi, ou le front européen.
Et il va aussi avoir une expansion de l'hôpital durant cette période-là.
Effectivement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a une expansion à cette époque-là, même si, de façon peut-être avec du recul, on se rend compte que, c'était peut-être pas le moment idéal pour lancer des gros travaux, mais la nécessité s'impose parfois. Et ce dont on se rendait compte depuis un certain nombre d'années, c'est les infirmières étaient dispersées un petit peu partout dans l'hôpital. Il n'y avait pas possibilité, justement, de loger l'ensemble du personnel subalterne sur place. Et même chose, la chapelle était vétuste. Il y avait des locaux pour former des nouvelles gardes malades qu'on aurait aimé avoir de plus. Et donc, il y a un manque de ce côté-là. Il faut aussi se replacer dans le contexte. À l'époque, les jeunes femmes qui viennent étudier pour devenir gardes malades ou pour devenir infirmières, elles logent sur les lieux. Parce que, on ne voudrait pas que ces jeunes femmes-là, ce soit dans un milieu de perdition, etc. Et donc, on tient à leur offrir un logement où elles vont pouvoir être proches de leur cours, être supervisées et ne pas justement être, par exemple, dans une colocation en ville ou trop fréquenter les jeunes hommes, ce genre de choses-là. Et donc, il y a une nécessité d'avoir des logements pour les étudiantes en sciences infirmières et des locaux aussi. Et donc, c'est ce qui va amener la volonté d'ériger une nouvelle école d'infirmières et une résidence pour le personnel actif de l'hôpital. Et le docteur Lemieux, dont je parlais, va revenir à l'hôpital Saint-Sacrement en 1943 et lancer les travaux de cette nouvelle aile en 1944. Donc, alors que la guerre tire vers sa fin, mais n'est toujours pas terminée.
Et donc, quand elle se termine, c'est la fin, donc, d'une période un peu de débordement et de beaucoup, beaucoup d'activités à l'hôpital Saint-Sacrement. Donc, comment se passe le retour à la vie normale, si on veut?
Eh bien, le retour à la vie normale se passe plutôt bien. En décembre 1945, par exemple, il reste une seule des 24 membres de l'institution ayant participé au conflit, la lieutenante Madeleine Langlois, qui est toujours en Angleterre et qui est attend d'être rapatriée. Donc, la plupart des gens sont rentrés au Québec et à Québec. On leur organise même d'ailleurs une fête le 2 décembre 1945 où, on les remercie pour leur participation à l'effort de guerre. Et ce dont on se rend compte après, c'est que tous vont jouir d'un statut social et professionnel privilégié grâce à leur expérience de front. Le colonel de Saint-Victor, dont je parlais tantôt, va devenir l'assistant du docteur Fabien Gagnon. Le major Gosselin, lui, va être promu radiologiste adjoint de l'hôpital. Atala Coulombe, l'infirmière dont je parlais tantôt, et les lieutenantes Caillé et Rossignol vont, elles, être déployées à l'hospice Saint-Charles pour prendre soin des vétérans. Donc, la plupart des infirmières et des médecins qui ont participé à l'effort de guerre vont avoir des promotions à leur retour, vont jouir en fait d'un prestige d'avoir participé à l'effort de guerre. Il va également avoir des réseaux qui vont continuer à exister au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense notamment à Atala Coulombe. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille qui me disait sa mère pendant toute sa vie a continué à voir ses amis qui avaient été au front avec elle. Donc il y a vraiment un réseau de solidarité qui s'est mis en place, des amitiés très, très fortes et qui vont perdurer sur le temps long.
C'est extrêmement intéressant et on va poursuivre dans la période d'après-guerre après une nouvelle pause musicale. Et donc, on y va avec le morceau que vous attendiez tous et toutes, donc « Bad Case of Loving You » de Robert Palmer.
Whoa. Ici l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3. Santé!
Rebienvenue à 3600 secondes d'histoire après cette élégante transition. Donc, vous écoutez notre épisode sur l'hôpital du Saint-Sacrement à Québec avec notre invité du jour, Alex Tremblay-Lamarche. Et donc, avant la pause, on a parlé de l'hôpital pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, on arrive donc dans les années 50, la guerre est terminée, tout le monde est content. Et c'est une période de grande transformation quand même pour l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là?
Eh bien, notamment, l'Église va inviter les laïcs à prendre de plus en plus de place dans la vie religieuse et civile. C'est quelque chose qu'on voit, bon, dans le milieu hospitalier, mais qu'on voit également, bon, dans l'ensemble de la société. Faut se replacer aussi dans le contexte. C'est, tu sais, tout le mouvement de la jeunesse ouvrière, c'est des mouvements, justement, bon, dans lesquels des gens comme Simone Monnet-Chartrand, Pierre-Éliott Trudeau, Pierre Vadeboncœur, tous les leaders, justement, bon, des années 60, 70, 80, bien, sont formés dans cette jeunesse catholique. Et bon, ben, à l'hôpital Saint-Sacrement, on a Sœur Marie de la Recouvrance, qui est née Georgette Arsenault, qui est la sœur économe de l'établissement. Et bon, elle va décider de prendre ce tournant social. Et lorsqu'elle prend la direction des lieux en 1940, elle s'intéresse activement aux questions de justice sociale et d'éthique. Et elle désire aussi que les laïcs prennent plus de place dans l'hôpital. Et donc, ça va se répercuter dans son administration de l'hôpital.
C'est une décision personnelle de sa part ou elle s'inspire de quelqu'un d'autre, un mouvement?
C'est à la fois une décision personnelle et comme, bon, tu le mentionnes, ça s'inscrit dans un mouvement, mais elle s'inspire notamment de la lettre circulaire du cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve qu'il a publiée. Et donc, elle s'applique à mettre en œuvre les principes de la doctrine sociale de l'Église dans l'administration de l'hôpital. Elle va notamment créer des comités regroupant des laïcs et des religieuses pour chaque département en 1947. Ces comités-là vont avoir pour mission de se pencher sur des questions lors de réunions mensuelles. On va également ouvrir une section de la jeunesse étudiante catholique universitaire pour les infirmières et une section de la jeunesse ouvrière catholique pour les aides féminines. Donc, pour justement, bon, que ça soit une espèce de petite ruche en ébullition, si je peux m'exprimer ainsi. En juillet 1947, les religieuses vont aussi créer le premier service social médical à Québec, service qui va être fait en collaboration avec l'École de services social de l'Université Laval. Donc, on ne se contente plus, effectivement, bon, de soigner, si je peux m'exprimer ainsi, de faire de la mécanique. On veut aussi tranquillement être capable de, d'aller dans une médecine qui est de plus en plus préventive, qui, bon, s'en va un petit peu vers le travail social, vers la psychiatrie. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, d'intervention sociale qui se met en place à cette époque-là.
Effectivement. Donc, il y a beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Puis même... au niveau de la médecine plus traditionnelle, je crois qu'il y a des percées qui se font à l'hôpital Saint-Sacrement.
Effectivement. Ben, comme je le mentionnais plus tôt, bon, c'est pas un hôpital universitaire, mais c'est l'hôpital où pratiquent la plupart des médecins de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et donc, ben, ça va amener les nouvelles pratiques à souvent s'implanter d'abord à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Par exemple, un des premiers endocrinologues à Québec, le docteur Antoine Martel, ça va être à l'hôpital Saint-Sacrement qu'il va se mettre à pratiquer. L'un des deux premiers otorhino-laryngologistes, ça c'est un mot qui est particulièrement long, de la ville, le docteur Camille Gélina va amorcer sa pratique à l'hôpital Saint-Sacrement en 1944 après avoir été formé à New York. Même chose, on va également mettre en place une clinique neuropsychiatrique en 1949. Donc vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de médecins de l'hôpital, ben, en fait de la faculté de médecine qui y œuvrent, ben, ça fait qu'ils amènent avec eux les nouvelles spécialités dans lesquelles ils se sont formés, que ce soit en France ou aux États-Unis, et que ces spécialités-là s'implantent à l'hôpital Saint-Sacrement.
Plus tôt dans l'émission, tu avais parlé donc d'hôpitaux privés, tu avais parlé de l'état de la santé, du système de santé à l'époque. Et dans les années 50, il y a un point tournant à ce niveau-là, notamment en lien avec les mouvements de responsabilité sociale que tu évoquais tout à l'heure. Donc, comment ça va se traduire dans la façon de gérer le système de santé et à l'hôpital Saint-Sacrement?
Ben, il faut se remettre dans le contexte. Comme tu le mentionnes si bien, effectivement, il y a une nouvelle... L'État veut prendre de plus en plus de place dans le système de santé. Il veut en prendre également de plus en plus dans le système d'éducation. Il y a effectivement... Bon, on se rend compte que ça prend de plus en plus de monde pour assurer ces missions-là et qu'on manque de monde parmi, effectivement, le personnel religieux. On se rend compte également que ça prend de plus en plus de moyens avec tout le développement de la médecine. Si on se reporte à la fin du 19e siècle, bon, les patients les plus riches se faisaient soigner chez eux. Et bon, ben, c'est les pauvres qui venaient à l'hôpital. Mm-hmm. Parce que bon, ben, les médecins, justement, se déplaçaient pour aller directement chez les patients. Mais à partir du moment où vous avez des tacos, que vous avez justement des appareils d'ophtalmologie, des appareils justement de radiologie, de radiothérapie qui sont particulièrement importants, qui sont gros, qui sont très coûteux, eh bien, c'est plus possible d'aller vers le patient chez lui. Et bon, même les gens les plus riches viennent à l'hôpital. Et bon, ces appareils-là qui sont particulièrement coûteux, ben, amènent justement le gouvernement à être de plus en plus, à s'investir de plus en plus dans la mission de l'éducation et bon, de la santé. Et bon, ben, ce qu'on voit aussi, c'est le développement de l'État-providence. Dès les années 1950, particulièrement du côté fédéral, au Québec, ça va arriver plutôt vers les années 1960, même si Duplessis, du côté de la santé, de l'éducation, commence déjà effectivement à investir de plus en plus. On a l'impression justement que Duplessis laisse toute la place à l'Église dans le domaine social et de la santé, mais dans les faits, oui, il laisse la place à l'Église, mais il a servi l'Église justement aux finances de l'État. Parce que, bon, l'Église est dépendante de ces subventions-là. Et donc, les subventions fédérales et provinciales vont être particulièrement importantes. Le ministre fédéral de la Santé nationale et du bien-être social, Paul Martin Senior, le père de l'ancien premier ministre, va justement mener toute une politique pour accroître le financement du système hospitalier par l'État. Et, bon, à Saint-Sacrement, ça va se traduire par, justement, bon, l'ouverture de cliniques. Par exemple, en 1949, le plan fédéral d'hygiène relatif à la lutte anticancéreuse va donner les moyens à l'hôpital d'augmenter son personnel, d'agrandir ses laboratoires et de créer une clinique anticancéreuse. En 1950, un octroi de 14 500 $ va permettre à l'hôpital d'ouvrir la deuxième clinique du glaucome au Canada, quelques mois seulement après l'inauguration de la première à Toronto. Donc, on voit qu'on reste encore dans un des hôpitaux les plus... important au Canada à l'époque, le principal hôpital universitaire de Québec. On voit justement qu'il y a tout plein de subventions qui sont données pour ouvrir des nouveaux services. Salle d'opération en 1951, salle de réveil en 1952, premier traitement au radium en 1953, diététiste en 1954. Et bon, tout ça se le fait grâce à la participation de l'État, tant fédéral que provincial.
Donc, beaucoup d'investissements au niveau de l'innovation et tout ça, mais il faut dire, on est à une époque avant l'assurance maladie.
Effectivement, et ça change considérablement les choses. On a, bon, d'une part, des patients qui sont capables de payer pour leur hospitalisation et, bon, des patients qui sont moins capables de payer. Et, bon, dans le cas des patients qui sont moins capables de payer, dans certains cas, ils vont être obligés de s'endetter ou ils vont être obligés de dépenser des sommes particulièrement importante. Dans certains cas, ils vont pouvoir bénéficier de la charité de l'Église ou bon, de la paroisse ou de ce genre de choses. Mais pour les patients qui ont moins de moyens, eh bien, on est dans une salle commune avec 10, 20, 30, 40 lits. Et bon, d'un autre côté, bon, on a les chambres privées pour les patients particulièrement fortunés. Et bon, au dire justement de la fille d'une ancienne justement infirmière en chef de l'hôpital Saint-Sacrement, les gens qui étaient dans ces chambres privées-là, en fait, étaient traités un peu comme à l'hôtel. Le service à ces chambres se faisait avec un certain décorum. Les religieuses étaient aux petits soins avec cette clientèle qui apportait des revenus importants à l'hôpital. Il y avait même, selon justement cette dame, des femmes de l'élite qui, bon, avaient l'habitude de se retirer toujours quelques semaines par année à l'hôpital comme pour prendre des espèces de petites vacances, là, où ils étaient bichonnés, chouchoutés, puis ils pouvaient se reposer. Donc, on voit vraiment, c'est un hôpital à deux vitesses, si je peux m'exprimer ici, où on a d'une part une élite qui a des chambres privées, des repas justement de filet mignon, des petits soins. Et de l'autre côté, bon, des chambres communes, des salles communes qui coûtent très, très cher pour le reste de la population.
Mm-hmm. Très bien. Et donc, tout ça, en fait, retombe, la responsabilité retombe sur les épaules des infirmières. Et donc, pour le temps qui nous reste, ce serait important, en fait, d'en parler, puisque donc, ce sont ces femmes-là qui ont vraiment permis le fonctionnement de l'hôpital. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rôle des infirmières et des religieuses à partir des années 50?
Bien, les infirmières, justement, jouent un rôle qui est particulièrement important dans l'hôpital. Et bon, ben notamment en assurant les soins, en étant, bon, en veillant sur les malades, puis bon, ben en faisant un petit peu tout le travail que les médecins ne font pas. Les aspirantes infirmières vont avoir une vie qui est particulièrement exigeante. Si on en croit les témoignages de l'époque, les cours se déroulent sous le signe du labeur et de l'austérité. Les étudiantes sont en service de 7h30 à 19h et vice-versa lorsqu'elles sont de quart de nuit. Leur quart de travail est entrecoupé par une heure de cours et un peu de repos, mais elles ne bénéficient que d'une demi-journée de congé par semaine. Lorsqu'elles ne travaillent pas, elles doivent nettoyer, repasser et empeser leur uniforme parce que s'il n'est pas d'une blancheur impeccable et s'il comporte un moindre pli, ben, les religieuses, justement, vont leur taper sur les doigts de façon, bon, quand même assez sévère. Donc, on voit qu'on est complètement dans une autre époque où, bon, on se dévoue corps et âme, justement, bon, à ce métier. Les femmes, justement, qui, bon, s'investissent dans cette profession-là, le font, dans certains cas, bon, par désir d'émancipation, par désir d'occuper cette profession-là. Dans d'autres cas, bon, le désir est sincère, mais c'est aussi un bon endroit pour rencontrer un médecin. Il y a beaucoup de couples qui vont se former entre des médecins et des aspirantes infirmières. Parce que, bon, ben, il n'y a pas de femmes médecins, sauf exception, et il n'y a pas d'hommes infirmiers, sauf exception. Et donc, ben, les bals ou les soirées dansantes, ou, bon, ben, ne serait-ce que les relations de travail vont amener les infirmières à côtoyer les médecins et, bon, à espérer, effectivement, comme le veut justement le rêve des années 1950, de marier, bon, quelqu'un qui est capable d'entretenir sa famille et que, bon, ben, la femme puisse se retirer, vivre dans un confort bourgeois et s'occuper de ses enfants dans une belle grande maison de banlieue. Donc, vraiment, il y a également cette mentalité-là qui est présente dans les années 1950 à l'hôpital Saint-Sacrement.
Alors, Alex Tremblay-Lamarche, merci beaucoup pour cet épisode. C'était fascinant. Peut-être, dernière question rapide, mais pour les auditrices, les auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur le sujet, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture, de médias peut-être à consulter?
Oui, ben, j'ai écrit quelques articles qui ont été publiés dans la revue Capodiamant, notamment sur les débuts de l'hôpital Saint-Sacrement, sur l'hôpital pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur la capitaine Atala Coulombe, qui est l'une des infirmières de cet hôpital qui s'est distinguée sur le front, ainsi que bon, sur les années 1950 et sur la révolution tranquille à l'hôpital Saint-Sacrement. Tous ces articles sont disponibles dans Érudit, donc si vous voulez en savoir plus sur la question, n'hésitez pas à aller les consulter et ça vous permettra justement de découvrir peut-être certains aspects dont on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui.
Merveilleux! Alors, merci beaucoup pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine à la même heure pour un épisode spécial avec la commissaire de l'exposition Picasso qui est présentement au Musée national des beaux-arts de Québec. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée et je vous laisse avec la chanson « I want a new drug » de Huey Lewis and the News. Bonne soirée.
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur chiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.